accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. En plein démantèlement de la jungle de Calais, que deviennent les mineurs isolés qui veulent rejoindre le Royaume-Uni? Après des négociations tendues avec Londres, 200 mineurs ont été autorisés à traverser la Manche la semaine dernière au titre du regroupement familial ou bien en raison de leur vulnérabilité. Mais il y a 1300 mineurs à Calais et leur sort est loin d'être réglé. Car les Britanniques restent sur une ligne dure, l'accueil des mineurs est loin de faire l'unanimité dans l'opinion publique, comme l'a constaté près de Londres Marie Billon.
Ils arrivent en bus devant les bureaux du ministère de l'Intérieur situé à Croydon, dans le sud de Londres. Au début de la semaine dernière, il n'y avait aucune barrière, juste une protection policière. Mais dès le lendemain, les barrières ont été dressées. Ça n'empêche pas un petit groupe de militants de l'association Citizens UK, très active dans l'aide aux mineurs isolés et aux réfugiés en général, de les accueillir avec des applaudissements. Certains des jeunes ont le sourire aux lèvres, mais tous doivent sans tarder entrer dans l'immeuble du ministère. Ils n'ont pas le temps, ou peut-être pas le droit, de saluer les proches qui ont fait le déplacement jusqu'à Croydon. Asif, 25 ans, n'avait pas vu Emal, son petit frère de 14 ans, depuis 2005, juste avant de quitter l'Afghanistan. Il est arrivé lundi dernier.
I'm so excited. I'm just waiting to see my brother.
Je suis tellement content. J'ai envie de l'embrasser, de le prendre dans mes bras. J'espère qu'ils vont me laisser le voir, même pour 5 ou 10 minutes. Après, je vais rentrer chez moi et attendre de voir ce que les autorités décident.
Certains proches étaient moins compréhensifs, mais ont dû se faire une raison. Jeanne Gazi attendait son neveu, Harris.
J'ai parlé à un agent de sécurité en lui disant que je voulais entrer pour le voir. Et il m'a dit non. J'ai répondu, comment ça? Il est là, juste là. Je ne l'ai pas vu depuis 7 ans. C'est le seul membre de ma famille encore en vie.
C'est la Croix-Rouge britannique qui a prévenu Jeanne de l'arrivée de son neveu, dit-il. Mais le ministère de l'Intérieur a plusieurs vérifications à faire avant de laisser les jeunes partir avec leur famille. Ibrahim est un traducteur afghan qui travaille avec les réfugiés. Il assiste aux entretiens des demandeurs d'asile quand leur demande est passée au crible.
C'est très dur pour eux. Ils posent des questions difficiles et plusieurs fois avec des angles différents. Ils mettent beaucoup de pression sur le mineur et ils n'accordent souvent qu'une petite pause au milieu. Et en fait, certains ont oublié ce qui leur est arrivé parce qu'ils sont traumatisés. Ils ont connu la guerre, leur famille a été tuée, leur maison détruite.
La route a été longue et violente pour arriver en Europe. Le jeune Harris est maintenant à Londres, mais son frère aurait été tué par un passeur, nous raconte son oncle. Et les épreuves ne sont pas terminées. Après la jungle de Calais, les jeunes gens ne sont pas toujours reçus à bras ouverts au Royaume-Uni, malgré les applaudissements du comité d'accueil. Dès leur arrivée, la presse tabloïde a commencé à douter de leur âge. Certains n'ont pas un visage juvénile. Colère à propos des vérifications trop légères, écrivait en titre le Daily Express. Un député conservateur, David Davies, a même demandé lors d'une interview à la BBC que le Royaume-Uni fasse ses propres tests.
Good morning to you both.
Good morning.
Good morning. David Davis, you're not sure that they are children.
We were given the impression.
On nous a fait croire que c'était de très jeunes enfants qui cherchaient refuge au Royaume-Uni, alors qu'en fait, on se retrouve avec des jeunes hommes qui ont peut-être moins de 18 ans ou peut-être plus. C'est très dur à dire. C'est pour ça que je suggère que nous fassions des tests dentaires pour déterminer leur âge. Il y a un autre test possible dans ce cas précis, un rayon X pour connaître la densité osseuse d'une main. S'il y a un doute sur les résultats, on devrait leur accorder le bénéfice du doute, mais je n'accepte pas qu'on dise que ces examens sont intrusifs. Je ne pense pas que quelqu'un qui est prêt à se jeter sur une barrière électrique ou dans un camion en marche soit intimidé par des rayons X.
Le ministère de l'Intérieur britannique a refusé catégoriquement ces propositions. Elles sont contraires à l'éthique, estime-t-il. En fait, l'âge est vérifié par les autorités françaises et anglaises, et quand un document officiel est douteux, elle se base alors sur les critères physiques et l'attitude. Une réponse qui ne satisfait pas les tenants d'une ligne dure sur les migrants. Le prêtre catholique Michael Scanlon Johnson, qui fait partie du comité d'accueil et de Citizens UK, est déçu par cette polémique.
C'est navrant. Les enfants n'ont pas toujours le physique de leur âge. Certains ont l'air plus jeunes, d'autres plus vieux. On peut le voir dans toutes nos écoles. Mais ces enfants-là ont pour la plupart vécu des moments traumatisants. Leur voyage jusqu'en France et leur arrivée à Calais, c'était une véritable épreuve et ça marque un visage.
Pour l'instant, le gouvernement britannique accepte les mineurs de la jungle, mais au goutte à goutte, ce qui est très critiqué par les associations.
Alors que se tient à Madrid le procès des malversations financières autour de la caisse d'épargne Bankia, un théâtre met en scène les protagonistes de ce scandale. 65 personnalités, des politiques, syndicalistes, entrepreneurs, qui ont dépensé sans compter avec des cartes de crédit officieuses sur des comptes occultes. À Madrid, François Musso a assisté à la pièce intitulée « Deviens banquier, tout ce qu'ils ont essayé de te cacher ». Le texte a été élaboré à partir des propres mails envoyés par un des banquiers et cela permet une sorte de catharsis citoyenne. Reportage à Madrid de François Musso.
Sur la scène, une présentatrice explique ce que le public va voir et entendre. Durant le spectacle, les acteurs incarneront les dirigeants de Bankia. Cette caisse d'épargne a la si mauvaise réputation. Ils incarneront un immense scandale, celui des Tarjetas Black, ces cartes de crédit professionnelles que les dirigeants utilisaient pour leurs loisirs en toute illégalité. Achat de vêtements, de chaussures de luxe, hôtel 5 étoiles, safari, discothèque, tout y passait. Au total, 14 millions d'euros. Les auteurs de cette pièce sont des citoyens, et ce sont ces mêmes citoyens qui ont mis à jour ce scandale. Ils appartiennent à un collectif issu des indignés pour qui le système politico-financier est contaminé et la seule solution est de le dénoncer auprès de l'opinion publique. Simona Levi, d'origine italienne et résidant à Barcelone, est la coordinatrice de ce projet inédit. Activiste très mobilisée, c'est elle qui a mis en scène cette pièce décapante et satirique.
On a décidé de le raconter nous-mêmes. Comme ça, l'opinion publique pouvait savoir directement par les auteurs des défiltrations et de la cause comment s'était passée vraiment cette histoire. Et aussi parce qu'il va y avoir une sentence, les gens ne savent toujours pas le contenu de ce procès. Et vraiment, c'est important qu'ils le savent. Et je crois qu'en une heure et demie, on arrive à l'expliquer très très bien. Et même les gens vont trouver ça marrant et très instruisant aussi.
L'histoire de cette pièce est en elle-même très originale. Le mouvement de ces indignés est une sorte de Wikileaks à l'espagnol. Il s'agit de pratiquer la démocratie via l'Internet et la filtration de secrets concernant des entités qui ont abusé de leur pouvoir. Un jour, ce mouvement reçoit un trésor inespéré. Il s'agit de 6000 mails de Miguel Blesa, le président de Bankia, celui qui a mis en place ce système des cartes de crédit frauduleuses. L'idée est donc de traiter ces 6000 mails, de les trier et de les restituer sous la forme de répliques dites par des acteurs. Et cela a du succès. Isabelle est chargée de la production de la pièce qui sera représentée dans les principales villes du pays.
Et réellement, je ne pouvais croire que la salle soit si disponible, où les gens rient autant, applaudissent autant, et cela a toujours été ainsi depuis la première. Ce n'est pas une œuvre habituelle, c'est un théâtre documentaire à partir d'innombrables informations, avec des concepts un peu pesants. Et bien, malgré tout, les gens en sortent très contents, parfois avec l'envie d'aller incendier quelques containers de poubelles.
Sur scène, le spectacle est impressionnant. On voit le président Miguel Blesa et deux de ses conseillers. Ils élaborent des stratégies pour payer moins d'impôts, repousser les limites de leurs dépenses avec les cartes illégales. Et lorsque l'un d'eux est dans le collimateur de la justice, ils évoquent le départ de cette personne moyennant des millions d'euros d'indemnité. Pour Simona Levi, il s'agissait précisément, avec les paroles des intéressés, de faire comprendre les rouages d'un système profondément corrompu qui, selon elle, fut responsable de la crise.
Elle explique très bien comment le système fonctionne parce que c'est justement un réseau de mafia dans le sens que tous les participants de ce réseau et de ce plan de mafia peuvent s'enrichir autant qu'ils veulent. Par justement ces Tarjetas Black, si ils amènent de l'argent à l'organisation. Et dans ces cas-là, l'organisation c'est les partis politiques et les principaux syndicaux.
La force de cette pièce est précisément cela, faire parler les protagonistes, montrer leur connivence. Ce groupe d'indignés qui travaille surtout via l'internet et les réseaux sociaux sait qu'il a réalisé un travail efficace. Grâce à leurs informations, Miguel Blessa, son successeur Rodrigo Rato, qui fut l'ancien directeur du FMI, et leur entourage sont donc jugés. Ils encourent des peines de prison. Sergio, le scénariste, celui qui a organisé les mails pour en faire un récit, n'en est pas peu fier.
Et c'est cela l'histoire que nous voulons raconter. Et pour nous, il est très important que ce ne soit pas la version du pouvoir ou des institutions, mais la version des citoyens. Principalement parce que c'est la version véritable dans la mesure où ce sont nous, les citoyens, qui sommes les protagonistes de cette mise en scène.
La pièce devient banquier, tout ce qu'ils ont essayé de te cacher est donc en soi un événement, sans passer par les médias audiovisuels, sans passer par des journalistes, des citoyens qui souhaitent régénérer le système ont mis en exergue ses travers. Et, disent-ils, il reste encore beaucoup de travail.
La lecture n'est pas un plaisir, elle est souvent une corvée.
Lire, c'est une joie, c'est un plaisir.
Livre.
Livre. Journaliste spécialiste de l'économie basé à Londres, Marc Roche revient avec un nouveau livre décapant après Bankster. Voilà l'histoire secrète d'un crash qui dure sur les coulisses de la crise de 2007-2008. Un livre pour comprendre de l'intérieur le système et une révélation. Le crash n'a pas commencé aux États-Unis, mais en France. C'est ce qu'il a expliqué à Catherine Roland.
Ce que j'ai voulu faire, c'est donner une version européenne d'une crise que l'on ne connaît que sous l'angle américain et on pense tous que la crise a débuté avec la chute de Lehman Brothers en 2008. En fait, elle a débuté en France en août 2007 quand BNP Paribas a fermé 3 fonds, 6 CAV, invoquant un problème de liquidité, ce qui a provoqué la panique générale et obligé la Banque Centrale Européenne à injecter 95 milliards d'euros en 2 heures, BNP Paribas a bien sûr déclenché la crise involontairement. Mais les milieux financiers se sont dit, si BNP Paribas a un problème, toutes les banques sont gangrénées.
Alors votre livre se lit véritablement comme un polar et vous nous emmenez presque dans l'intimité des plus grands banquiers du monde qui peu à peu, on le voit, paniquent ou alors sont dans le total déni et s'arrachent les cheveux.
En fait, ces gens omnipotents qui sont à la tête des banques sont fragiles. C'est une des découvertes également de la crise. Bon nombre d'entre eux, face au stress et surtout à l'inconnu, après des années de bien-être, de bonus faramineux, eh bien, craquent. Leur problème se transfère immédiatement à l'économie réelle en raison de leur taille, également de l'interconnectivité des marchés.
Vous racontez notamment les rapports entre les banquiers et les États, et puis également ce qui se passe dans la cuisine européenne entre la BCE et différents États, donc les Allemands qui gouvernent par derrière la BCE, les Français qui critiquent, les Anglais qui, on a l'impression, se voilent la face. Enfin bon, c'est vraiment un chaos total.
Et de ce chaos total, comme vous dites, sort une personnalité. Sans vouloir intervenir dans le débat politique français, il est très clair que Nicolas Sarkozy, en tant que président, a percuté sur la crise. Alors il bénéficiait d'une équipe autour de lui qui était très bonne, menée par François Perrol et Xavier Muscat. Dans une lettre à Merkel, 5 jours après le problème de BNP Paribas, tout est dit sur la crise. Mais Merkel se voile la face parce qu'elle ne veut pas voir les problèmes des banques britanniques. Gordon Brown, un Écossais, ne veut pas voir que sa Royal Bank of Scotland est carrément en faillite. Et donc, il ne se passe rien. Et Nicolas Sarkozy doit se battre et se bat pour obtenir enfin une coordination à l'échelle internationale. Il y a une réunion du G20 à Washington qui va déboucher en 2009 sur le grand G20 de Londres où les premières mesures d'encadrement des hedge funds, d'encadrement des paradis fiscaux sont prises.
Alors ce qui est extraordinaire quand même dans ce livre, c'est que on voit donc tous ces grands banquiers et leurs seconds, certains démissionnent, d'autres restent en place, mais aujourd'hui finalement tous ont réussi à se caser ailleurs.
C'est extraordinaire. Les gens responsables de la crise qui ont dû démissionner, ont perdu leur travail, eh bien, où se sont-ils recyclés? Dans l'universitaire? Dans les ONG? Non, ils sont tous dans la finance. Et la liste est terrifiant. Prenons la France. Daniel Bouton, qui était président de la Société Générale lors de l'affaire Kerviel, il est aujourd'hui chez Rothschild. Baudouin Pro, qui était numéro 2 et puis numéro 1 de BNP Paribas lors de la crise, il est financier chez Boston Consulting. Mais il n'y a pas que les banquiers. Les commissaires européens, eux aussi, se sont recyclés au mépris de l'éthique la plus élémentaire dans la banque. Et le meilleur exemple est bien sûr José Manuel Barroso, qui a été recruté par Goldman Sachs, qui a joué un rôle premier dans la crise grecque.
Aujourd'hui, on se dit que quand même, on a tiré les leçons de cette crise, hein, qui dure, hein, puisqu'il y a des conséquences sociales très graves dans un certain nombre de pays européens. Et selon vous, est-ce qu'il y a de nouvelles menaces ?
Des leçons ont été tirées de la crise. Il est très clair que le système bancaire est plus solide qu'il ne l'était il y a 9 ans. Les fonds propres ont été augmentés, les paradis fiscaux ont été encadrés, les bonus ont été réduits, du moins en Europe. Et en général, les autorités de réglementation sont mieux équipées, c'est les banques centrales aujourd'hui, pour gérer les crises des banques. Ceci dit, il reste que de nouvelles bombes à retardement. D'abord, les banques centrales, qui ont injecté des liquidités, une bonne action, parce que ça a sauvé le système financier européen et l'économie européenne. Seulement, ces liquidités ne sont pas tombées dans l'économie réelle, elles sont restées dans le système financier, et donc il y a un risque de bulle obligataire. Il y a aussi les banques qui restent plus grosses que jamais et qui sont pétries de conflits d'intérêts. Et enfin, aujourd'hui, la plupart des transactions boursières sont faites par ordinateur. La banque par Internet se développe. Que se passe-t-il en cas de panne du système informatique ?
En conclusion, vous pensez qu'il y a vraiment un gros risque de crise économique, d'abord financière et ensuite économique ?
Vous savez, la crise financière n'a jamais arrêté. On nous a dit, après le G20 de Washington, c'est fini. Mais en raison du renflouement des banques, il y a eu la crise des États, la crise de la dette souveraine. Et ensuite, les scandales dans lesquels sont impliquées les banques se sont multipliés. Et vous savez, la conséquence de tout cela, c'est que notre société est plus fracturée que jamais. La classe moyenne est paupérisée, les populismes sont en essor. Et le Brexit, c'est une réaction à la crise financière qui a obligé le gouvernement britannique à imposer une politique d'austérité, et en fait, tous les banquiers britanniques et la City n'ont pas été punis de leurs errements, et c'est la révolte de la classe moyenne contre Londres, la spéculation, la finance. C'est cela le Brexit.
L'histoire secrète d'un crash qui dure est publiée aux éditions Albin Michel. Rwanda, Los Angeles, Lisboa, voilà un titre d'exposition qui est en soi une invitation au voyage. Lisbonne accueille au Centre d'Art Moderne de la Fondation Gulbenkian une rétrospective de l'artiste angolais Antonio Olé, un artiste multiforme dont les œuvres résonnent comme jamais dans le monde d'aujourd'hui. Marilyn Darcy.
Dans un coin de la grande salle du Centre d'Art Moderne de la Fondation Gulbenkian, une drôle de barque attire l'attention. Coupée en deux dans son milieu, elle est surmontée de deux corbeaux empaillés. L'une des moitiés est chargée de briques, l'autre chargée de paquets d'archives en portugais. Antonio Olé met en scène la séparation entre l'ex-colonisateur portugais et l'ancien colonisé angolais. L'un s'en va, emmenant avec lui son pouvoir, symbolisé par les archives, des rapports de police et des listes administratives récupérées par l'artiste. L'autre reste et tente de se reconstruire. Le monde qui désormais les sépare est un océan dont les vagues sont prisonnières d'un écran vidéo sur les deux morceaux du bateau. C'est l'une des installations marquantes de l'exposition parce qu'elle est assez facile à déchiffrer, mais aussi parce que l'on y retrouve les thèmes chers à Antonio Olé, la colonisation, la décolonisation, la séparation, la construction. L'artiste aime photographier les murs décrépits, les briques qui s'entassent et utiliser des objets récupérés pour le plaisir de les détourner dans la pure tradition des années 70-80 qui montre à quel point Olé l'Africain connaissait bien l'art européen. Cinéaste, photographe, peintre et assembleur d'objets et de concepts, Olé estime, à juste titre, qu'il n'a pas besoin de revendiquer son africanité, qu'elle s'étale devant nos yeux et qu'il suffit donc de les ouvrir. L'homme se veut artiste du monde et il se place bien au-delà des regards, parfois infantilisants, que l'on porte encore sur l'art africain contemporain.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Besset. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.